Profit. L'OCDE dessine les traits d'un impôt international. Par Romaric Godin. Révolution ou diversion? Le 9 octobre, l'OCDE a publié ses propositions pour une réforme d'ampleur de la fiscalité des entreprises au niveau international. Ces propositions visent à en finir avec la possibilité pour les entreprises du numérique d'échapper à l'impôt là où elles réalisent effectivement leurs profits. Mais ces propositions sont le fruit d'un compromis difficile et leur efficacité risque d'en souffrir. D'autant que le diable est dans les détails et que les détails ne seront abordés qu'après le feu vert des ministres des Finances du G20 fin janvier. Car l'OCDE agit à la demande du groupe du G20 pour rénover un droit fiscal international qui date des années 1920 et qui n'est plus guère adapté, désormais, à un âge où l'on peut utiliser Internet pour acheter et vendre à l'autre bout du monde. La grande avancée des propositions de l'OCDE réside dans un changement de principe essentiel. L'imposition des bénéfices dans un pays n'est désormais plus liée à la présence physique des entreprises dans ce pays. De ce point de vue, la révolution est claire. Elle met fin de facto à une ambiguïté qui faisait que toute transaction réalisée en France par Amazon donnait lieu, par exemple, à une imposition des profits au Luxembourg. Désormais, l'entreprise sera tenue de s'acquitter d'une imposition sur ses bénéfices en France. Mais dès que l'on rentre dans le vif du sujet, les exemptions commencent. L'OCDE a dû, d'abord, répondre à une question qui déchire les grands pays depuis des mois. Qui doit être concerné par ces nouvelles règles? Les uns, comme le Royaume-Uni, défendaient l'idée de limiter ces règles au secteur du numérique. Les États-Unis préféraient une imposition large. L'organisation basée à Paris a choisi de limiter le périmètre des nouvelles règles aux entreprises du numérique et à celles qui sont en contact direct avec les consommateurs. Cela exclut les secteurs industriels et extractifs. La question du secteur financier est ouvertement posée par l'organisation qui refuse d'y répondre. Par ailleurs, une limite de taille sera appliquée, sans doute à 750 millions de dollars de chiffre d'affaires, qui est la limite actuelle pour le détail, pays par pays, des bénéfices. Cette définition sectorielle nécessitera de définir soigneusement quelles entreprises seront dans le périmètre ou non, et l'on peut fort bien imaginer, comme le craint la Commission indépendante pour la réforme de la taxation des entreprises au niveau international, l'ICRICT, que certaines entreprises jouent de cette difficulté pour réduire l'impact des nouvelles règles. Vient ensuite la question de savoir ce qui sera taxé. Et ici, on entre dans des dédales mathématiques. Le point de départ sera les bénéfices publiés par le groupe concerné par ces règles nouvelles. Ce bénéfice sera divisé en deux parties. Les bénéfices dits « routiniers » qui seront précise l'OCDE, calculé sur un niveau de profitabilité agréé. L'organisation évoque la possibilité de fixer un pourcentage fixe avec des variations possibles par secteur. Ces bénéfices seront exclus des nouveaux droits de taxation des États. C'est en quelque sorte un niveau de profit que les États acceptent de préserver. Évidemment, d'emblée, cela limitera le montant de la redistribution des taxes. Tout en reconnaissant l'ineptie des règles actuelles. L'OCDE admet donc implicitement qu'une part de l'évasion fiscale actuelle est justifiée et doit être protégée. Une petite partie de ce profit routinier restera cependant imposable dans des conditions à définir pour les activités de marketing et de distribution. Seul le bénéfice appelé « résiduel » sera donc imposable au titre des nouvelles règles. Mais il ne le sera pas entièrement. L'OCDE propose ainsi de distinguer dans ce profit ce qui est effectivement attribuable à des activités dans les juridictions de marché, les États où ont eu lieu les ventes et ce qui relève d'autres facteurs, comme les revenus du capital, de la gestion du risque, des opérations de commerce. L'organisation prend comme exemple le fait qu'une entreprise de réseau social peut gagner de l'argent non seulement par la publicité ou la gestion des données, mais aussi par ses algorithmes et ses logiciels. Autrement dit, l'OCDE propose d'exclure du champ de la nouvelle législation toute forme de transaction qui n'est pas directement liée au consommateur. Là encore, elle propose une formule simplifiée avec un pourcentage fixe variable selon les secteurs. Mais on imagine bien qu'ici, les entreprises concernées vont être très actives pour jouer sur la complexité de cette nuance et mettre à l'abri une partie substantielle de leurs profits. L'idéal pour elles serait sans doute que le pourcentage soit fixé dans des limites agréées par les sociétés elles-mêmes. Elles pourront effectivement prétendre que, chaque année, les effets de ces profits attribuables à d'autres secteurs pourront changer. Ce n'est alors que la portion congrue de ces bénéfices, la partie résiduelle de la partie résiduelle, qui sera soumise à un partage entre les différentes juridictions de marché. Pour trouver une clé de répartition, l'OCDE propose d'avoir recours aux ventes, tout en laissant ouvert d'autres modes de calcul plus complexes. On le voit, l'OCDE pratique un tranchage savant des bénéfices pour ne laisser aux États concernés qu'une portion réduite des bénéfices d'une partie seulement des multinationales. C'est sans doute mieux que rien, mais compte tenu de la marge d'appréciation et de négociation, il convient de ne pas espérer voir les rentrées fiscales exploser avec ces nouvelles règles. Surtout si, comme c'est le cas en France, le taux de l'impôt sur les sociétés recule sous la pression de la compétition fiscale internationale. Tout cela sera sans doute très complexe et hautement contestable. L'OCDE propose d'ailleurs de mettre en place des instances de prévention des disputes et aussi pour éviter des doubles taxations. Il faut donc s'attendre à ce que les sommes récoltées soient largement contestées et, parfois, récupérées par les entreprises. Sur les questions liées à la distribution, les propositions restent assez floues pour laisser beaucoup de doutes sur la question. Et un des buts de l'OCDE, celui d'offrir une imposition stable et prévisible, pourrait bien être difficile à atteindre. À ces nouvelles règles s'ajoutera un second pilier, afin d'établir un nouveau minimum d'imposition. C'est, là encore, une bonne idée sur le principe, qui vise à réduire les juridictions offrant des impositions nulles ou faibles. Mais tout dépendra encore de la limite fixée. Une limite trop basse maintiendra la compétition fiscale et la pression à la baisse de l'imposition des profits. Or, les États-Unis semblent défendre un seuil de 13%, ce qui est proche des niveaux les plus faibles dans l'Union européenne, 12,5% en Irlande ou à Chypre, dont on peut voir les effets négatifs tous les jours. Globalement, ces propositions sont donc difficiles à juger dans la mesure où les éléments concrets sont encore à venir et vont faire l'objet d'ardentes discussions tout au long de l'année 2020. Si les grands principes sont louables, il semble que l'OCDE a été soucieuse de protéger une grande partie des bénéfices des entreprises. La distinction entre profits routiniers et non routiniers est spécieuse, de même que celle entre sources du profit non routinier. L'exclusion des profits du capital, notamment, semble graver dans le marbre la déterritorialisation des revenus financiers. C'est une acceptation d'une finance qui échappe désormais aux juridictions nationales, alors même que cette réflexion eût été l'occasion de s'interroger sur cet état de fait et sa correction. L'ICRICT critique par ailleurs le biais géographique d'une réforme faite par l'OCDE pour les membres de l'OCDE et qui oublie les États émergents ou en voie de développement dont la proportion de consommateurs est plus faible que celle de producteurs. Le comité demande l'intégration d'éléments liés à l'emploi pour rééquilibrer le calcul. L'économiste Joseph Stiglitz, membre de l'ICRICT et titulaire en 2001 du prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, estime que l'OCDE canonise le gradualisme en choisissant en quelque sorte une voie à minima. C'est sans doute le prix à payer pour obtenir un accord international. Il ne faut certes pas négliger le fait qu'un tel accord est désormais possible, dans la mesure où il a longtemps semblé hors de portée. Mais il convient aussi de reconnaître que cet accord est très limité et prend largement des allures d'accord de façade. Tant que les modes de calcul restent flous, il n'est pas possible d'estimer l'impact de ces réformes. Mais le saucissonnage de l'OCDE laisse à penser qu'il n'est pas certain que la France y gagne au regard de sa taxe GAFAM locale, déjà peu ambitieuse. Or, Paris s'est engagé à rembourser à Washington, lors du sommet de Biarritz, le trop perçu pour les entreprises états-uniennes. On est donc loin de la révolution fiscale, comme de la bonne affaire pour le budget français. Mediapart.